Pasal 47 étant l'unique inventeur des cieux et de la terre et des choses qui le peuvent. Certes, il n'y a point d'égareur pour celui que Dieu a guidé et il n'y a point de guide pour celui que Dieu a égaré. La commission de soumis ne lui profite point ni ne remonte à rien dans son pouvoir ou dans son royaume. De même, l'infidélité des infidèles ou la mécréance des mécréants ne lui nuit point ni ne diminue à rien dans son pouvoir ou dans son royaume. Quiconque obéit à Dieu et à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le fait pour son propre profit, et quiconque leur désobéit ne laisse en vérité que sa propre personne. Dieu s'efface de tout, il est Dieu avant comme après la création de l'univers, étant le premier, le dernier et l'unique pourvoyeur de toutes les créatures, et à lui tout sera retour. Et je témoigne par la suite que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé. Il l'a envoyé avec la voie droite pour prêcher la vraie religion qu'il fera prévaloir sur toute autre religion ou idéologie, n'en plaise aux mécréants et aux négateurs. Il l'a envoyé en tant que miséricorde pour l'humanité toute entière et en tant que lumière éblouissante face au ténèbres de la barbarie et de l'égarement. Il l'a envoyé en tant qu'annonciateur de bonne fin pour les musulmans dans le jardin des délices éternels et en tant qu'avertisseur de tourments éternels aux mécréants. Qu'Allah prie sur lui, sur sa sainte famille et sur ses fidèles compagnons. Amen. Ceci dit, certes, les mères des paroles et les livres de Dieu, c'est-à-dire le Coran, et la mère de voir et celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et les sûres de choses sont les innovations religieuses, et toute innovation religieuse est un égarement, et tout égarement est dans le feu. L'islam, en tant que dernière révélation divine à l'humanité tout entière, s'est intéressé de façon judicieuse à tous les domaines de la vie de l'homme, et à tous les aspects touchant cet individu comme bien honoré par le Seigneur de l'univers. L'homme, il faut le connaître, demeure de loin la créature la plus honorée de Dieu, le très haut, lequel, quand il décide de faire quelque chose, il lui suffit de dire soit et la chose voulue est déjà en place. Par cet ordre, il créa l'univers et ce qui renferme, excepté les genres humains, lequel il a gracieusement dignifié par le fait de l'avoir créé lui-même de ses propres mains pour ensuite fixer à lui, c'est-à-dire à l'être humain, le processus du développement et de la procréation. Il a encore honoré les gens humains en général et en particulier le corps de l'humanité qui est Adam, à partir duquel il a créé son épouse Hawa ou Eve, puis à partir de ces deux êtres, a fait foisonner la race humaine tant dissimulé sur la planète Terre. Après avoir créé Adam, il ordonna aux anges de se prosterner pour Adam, en guise de respect et de considération. Ordre auquel répondaient tous les anges, excepté Iblis, le démon, qui était parmi eux. Celui-ci refusa de se prosterner, prétendant qu'il était meilleur qu'Adam, car Dieu l'avait créé du feu, tandis que Adam était de la terre. Puis, Dieu qu'il soit exalté et lui a fait d'Adam un gérant de la terre où sa postérité se succède de génération après génération, communauté après communauté, histoire après histoire, et cela jusqu'à la fin des temps. Puis, le Seigneur a distingué l'égard humain des autres créatures par l'honneur de la raison, de la parole, de la réflexion, de la méditation, de la capacité de distinguer le mal du bien, l'utile de l'inutile, l'honneur du durable, la droite de la gauche, le haut du bas, le bien du mal, la guidance de l'égarement, etc. Puis, il a doté des moyens qui lui permettent de dire, d'écrire et de s'exprimer correctement. Puis, il a distingué par l'acceptation du dépôt, le grand dépôt que toutes les créatures, à savoir les cieux, la terre, les montagnes, les animaux, etc., ont refusé de se charger à cause de la grande responsabilité qui s'y attache. Puis, il lui a soumis tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Puis, le Seigneur a distingué encore les genres humains des autres créatures par la loi qu'il a légiférée pour eux, loi à partir de laquelle ils doivent juger tous leurs différents et cela sur tous les plans religieux, social, économique, politique, scientifique, éducatif, hygiénique, etc. Maintenant, du moins, Dieu le premier les enfants, tout d'abord, qui est celui Allah, le créateur de toutes choses, qui a créé l'eau pour nous, afin que nous puissions lui rendre grâce pour ses grands bienfaits. Mais de laquelle il a fait la source de l'humanité ou plutôt un composant de la création du genre humain, il dit vouloir à lui, أو لم يرى الذين كفروا أو لم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء هين أفلا يؤمنون شيخي أم مصري من تلقى في كالسير إلى تير فرمي إلى الناس كمتاك أن شوف نولجابون سفاري Et nous avons fait de l'eau toutes choses vivantes, les poires ont ils donc pas. Surat 21, verset 30. Nous voyons donc à travers ce verset que l'eau est un composant indispensable à toute vie. Par conséquent, il n'y a pas de vie sans l'eau. Nous savons aussi en sciences physiques que toutes choses sur cette terre en particulier contiennent de l'eau. Pour mettre en évidence, par exemple, la présence de l'eau dans la pierre, on fait chauffer et surgiffer cette pierre dans un récipient couvert. Au bout de quelques minutes, on peut voir que des bulles se déposent sur le couvercle du récipient, ce qui prouve que la pierre contient effectivement de l'eau. Par ailleurs, ce verset entame des vérités concernant la formation des planètes et de la terre, vérités qui sont aujourd'hui découvertes par la science moderne. Mais c'est la science qui est produite de l'intelligence, laquelle intelligence et créature de Dieu ne pourrait jamais être en contradiction avec la révélation de Dieu de l'être de l'univers. Si la contradiction, elle ne peut être que le résultat de nos attitudes, des observations, des calculs, des déductions, bref, le résultat dû au refus du scientifique à admettre qu'effectivement, ces vérités ont été évoquées et exposées clairement dans le saint livre de Dieu. Par ailleurs, le Père Cachéry dit à propos de ces versets, non seulement l'eau entre dans la composition de tout être vivant dans une proportion allant de 30 à 90%, mais même la matière minérale n'entre en réaction qu'en présence de l'eau qui lui permet de s'ioniser en avion et traction. C'est pourquoi il est dit dans le verset, toutes choses vivantes. Fin de citation. Un autre commentateur du Coran a dit, certains auteurs modernes ont trouvé bon d'insister sur la parfaite conformité de cette vie du Coran à une récente hypothèse suivant laquelle l'univers serait le produit de l'explosion d'un élément simple. Nous pensons que le Coran n'a nul besoin de recourir à l'appui d'hypothèses foncièrement inconsistantes et sujettes au changement pour établir des vérités d'abord éternelles, fin de citation. Quelle est l'attitude on ne peut plus meilleur à tenir devant de telles conformités. En effet, comme je l'ai dit tantôt, on ne se sert pas de découvertes scientifiques pour confirmer la vérité, la véracité ou le caractère transformateur du Coran. Au contraire, le Coran est entièrement vérité, tout comme la sunna du prophète prière et celle de Dieu sur lui est entièrement vérité. Si la science moderne découvre une vérité allant dans le sens de ce que le Coran ou la tradition prophétique a déjà affirmé, nous disons tant mieux, c'est que cela sorte de leçon aux scientifiques pour entrer dans la paix de Dieu qui est l'islam. Mais nous ne devons aucunement nous réjouir de cela, car se réjouir d'une telle conformité entre science et Coran, c'est se préparer à rejeter ce que la science est incapable de démontrer la véracité ou ce qu'elle juge incompatible avec ses théories. À une observation. Qu'Allah nous protège à nous. Revenant un peu de notre sujet pour dire que l'eau est encore rappelée dans le Coran comme étant un des éléments fondamentaux de la création de l'homme. Dieu se soit lié et exalté en effet dit « Fayangul insanu minna khuluq, khuluqa minna in dafiq, يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. كلام قصدر ده بكوا إلى يتكري لا يتكري من يتكري ده صفي دان تلزم إلى كد الله كت كفاو دلوري فيسكي كبات كتربتي بكتن أي كدو كلما أفير شكاتر أفير بكتبه nous informe, Dieu nous informe que c'est lui qui l'a fait descendre du ciel pour faire sortir les végétaux et tout ce dont les êtres vivants ont besoin pour survivre. Il dit gloire à lui, et où il lui angle mine sonna ima'a, se akhrajina dihi nabata kumiche, se akhrajina minu khidra, ne khoji minhu habban mutaratiba, et mine nakhl min tali'a fi nuwanun dhania, وجنات من أعناب وزيتون ورمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون بخلي كيف يصير أفيد ثمرة اليوم في فرأل nous fîmes germer toute plante de quoi nous fîmes sortir une verdure, d'où nous produisîmes des grains qui étaient posés les uns sur les autres, et du palmier, de sa stade, de régime de date, qui se rapproche à portée de l'année, et aussi les jardins de raisin, les lys et la grenade semblables ou différents les uns des autres. Regardez leurs fruits au moment de leur production et de leur nourrissement. Voilà bien des signes pour ceux qui ont la foi, Sourate 6, verset 89. Cette attention de son rôle combien important pour l'humanité, et en fonction de son état vital, que Dieu le Créateur a blâmé tous ceux qui consomment l'eau d'une façon ou d'une autre, et qui ne sont pas reconnaissants envers Dieu, lesquels leur a fait descendre cette eau sans laquelle ils ne peuvent pas vivre sur cette terre. Dieu le Créateur a dit, أفرأيتم الماء الذي تشربوه أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون ويقول جانك لوكي بوبيبي اتبوك لا بيسة ديساندر اتبوك لا بيسة ديساندر في نياش او أسمنوه لديساندر سنوه اليوم نلاران بريان صالح. Pourquoi n'êtes-vous donc pas reconnaissant? Surat 56, verset 38 à 110. Dieu qui soit exalté dit dans un autre verset du Saint-Coran, قُلْ أَرْأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ. Dit, que vous assemblez, si votre eau était absorbée au plus profond de la terre, qui donc vous apporterait de l'eau des sources? Surat 107, verset 30. L'eau est un des plus grands bienfaits de Dieu à l'égard de l'univers tout entier, en général et en particulier à l'égard de ses habitants de la planète Terre. Notre Seigneur Allah, qu'il soit loué et exalté, nous a souvent invités à nous rappeler ses bienfaits sur nous et par conséquent à lui rendre grâce et reconnaissance à travers ce rappel. Il dit dans un verset, servant de l'étymotive, c'est-à-dire qui revient le plus souvent, environ 30 fois d'après le compte qui nous a rentré, lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Et la question ici est adressée à l'ensemble des humains et des djinns, lesquels assument la grande responsabilité du dépôt qui consiste à adorer Dieu sincèrement, sans lui, sans rien lui associer, Dieu qui soit exalté lui en effet dit. Dieu, qui soit exalté, lui, il a en effet créé les djinns et les humains, plutôt qu'il l'adore, comme il l'a dit, « Oma khalaqatul djinn wal insa إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إلا الله هو الرزاق ذو القوة المتين. جيني كيو يجين إلى جيني كفر كما دور جيني شاشتا دور جيني كريستان أجيني غصا كما نوريس أن بريتي في الله في لغام قوايا يجب أن تبلا فوت جيني إبرا الله سورة 51-56. J'ai toutefois glorifié à d'abord évoqué au début du chapitre 55 dont nous venons de citer le verset, le motif répété une trentaine de fois. Ce chapitre d'ailleurs qui porte le nom du le très miséricordieux est un des plus beaux noms de Dieu. Dieu a évoqué dans qu'il a enseigné le Coran, a créé l'homme. Il a appris à s'exprimer clairement, puis il a évoqué le soleil et la lune, lequel l'a soumis à une évolution continue selon une initiée calcul, puis il a évoqué la terre et ce qu'elle contient comme moyen de subsistance. Il a évoqué aussi les instruments de mesure tels que la balance et a ordonné d'observer équitablement la pesée afin que les gens ne se lèvent pas de leurs transactions commerciales. Puis il a évoqué l'origine de l'homme et du génie a déclaré qu'il a créé le premier à partir de la poterie, donc de la terre, et le second à partir de la flamme. Après cette évocation de ses faveurs, il commença à interroger l'homme et le génie en leur posant cette question: lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? فبأي آلاء ربكما تكذبان. Et cela une trentaine de fois. Tout cela nous montre que le rappel des bienfaits de Dieu et la méditation sur ces bienfaits font partie de la reconnaissance des serviteurs et de leur gratitude vis-à-vis de leur Seigneur. Cette méditation constitue en fait un moyen de se rapprocher de Dieu, de très haut, comme il l'a dit, parlant de ceux qui font usage de leurs organes de sens, en général et en particulier de leurs yeux, pour voir les merveilles de la nature et celles de l'univers, entre autres l'eau, la pluie, les montagnes, les arbres, les planètes, les arbres, les animaux, les hommes, etc. Dieu qu'il soit glorifié a dit: Inna fi khalq as-samawati wal-ard wa ikhtilafi al-layli wan-nahari la-ayatin li-ulil al-albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalq as-samawati wal-ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adhaban-nar. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance du jour et de la nuit, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a quatre décennies pour les doués d'intelligence, qui, debout, assis ou couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre en disant: Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi, et parle-nous des châtiments du feu. Seigneur, quiconque s'y fait entrer dans le feu, tu le couvres vraiment d'ignominie. Et pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. Seigneur, nous avons entendu l'appel de celui qui a conduit à la foi en disant: croyez à votre Seigneur. Et de l'or, nous avons cru. Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Efface pour nous nos méfaits et place-nous à notre mort parmi les gens de Dieu. Seigneur, donne-nous ce que tu nous as promis par tes messagers et ne nous couvre pas d'ignominie au jour de ta résurrection. Car toi, tu ne manques jamais à ta promesse. Le Seigneur les a alors exaucés en disant: en vérité, je ne laisse pas perdre le bien de personne d'entre vous, homme ou femme, car vous êtes les uns des autres. Surat 3, versets 190-195. Dieu, qui soit exalté, lui dit encore dans le Saint-Coran, إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Certes, c'est la création des cieux et de la terre, de l'alternance de la nuit et du jour, de les navires qui voguent en mer chargés de choses profitables aux gens, de l'eau qu'Allah fait descendre du ciel, par laquelle il rend la vie à la terre une fois morte, et il répand des dettes de toutes espèces, de la variation des vents et dans les nuages soumis entre le ciel et la terre, en tout cela, il y a des signes pour un peuple qui raisonne. Ainsi, ce serviteur de Dieu sera récompensé par les paradis, comme l'indique la suite des versets précédemment à lui, pour avoir fait donc usage de leurs organes de sens en méditant sur la création de l'univers et en se servant de cette méditation pour parvenir à comprimer l'unicité de Dieu et profiter de l'occasion pour implorer Dieu et lui demander la meilleure récompense qui soit ici-bas et dans l'au-delà. Le rapporté de la Sunna, un récit qui dit « Malheur à celui qui lit les versets dont nous avons lu précédemment, ceux de la Sourate 3, versets 190 à 195, malheur donc à celui qui lit ce verset sans les méditer. » Le prophète prie au salut de Dieu, celui récité d'ailleurs ce verset lorsqu'il se lève la nuit pour la prière nocturne. Il disait après s'être purifié en levant, après s'être purifié, Seigneur, il n'y a de Dieu digne d'adoration parmi toi. Purifié à toi. Je te demande le pardon de mes péchés et je te demande ta miséricorde. Ô mon Seigneur, fais-moi croître en science et ne veux pas dévier mon cœur. Après ce qui m'a guidé. Et donne-moi une miséricorde de ta part. Oui, tu es toi le grand donateur. Louange à Allah, qui nous a fait vivre après nous avoir fait mourir. Et vers lui, c'est la résurrection. J'étais aussi parfois, ô notre Seigneur, à toi la louange, qui est celui par qui subsistent les cieux et la terre et ceux qui le renferment. Et à toi la royauté des cieux et de la terre et de ceux qui le renferment. Et à toi la louange. Tu es la lumière des cieux et de la terre et de ceux qui le renferment. Et à toi la louange. Tu es la vérité. Ta promesse est vérité. Ta rencontre est vérité. Le paradis est vérité. L'enfer est vérité. Les prophètes sont vérité. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est vérité. Et l'heure dernière est vérité. Ô mon Seigneur, je me soumets à toi. Je crois en toi. Et en toi je place ma conscience. Et vers toi je me tourne. Et par toi je combats. Et en toutes choses tu es mon arbitre. Pardonne-moi donc mes péchés. Parce que je suis futur. Qu'ils soient secrets ou publics. Et ce que tu connais mieux que moi. C'est toi. Et ça, hein. Dieu exalté soit-il dit encore qu'il tire sur l'arbre de Tanzir ou Khaifa d'Abi al-Khalq, Summa Allah yenshi'u nash'at al-Akhira, Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Dit, parcourez la terre et voyez comment Dieu a commencé la création. Puis, comment Allah a créé la génération ultime. Car Allah a pouvoir sur toutes choses. Verset 20 du chapitre 29. Et dit encore, Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila al-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat. Ne considère-t-il donc pas les chameaux comment ils ont été créés et le ciel comment il est élevé et les montagnes comment elles sont dressées et la terre, comment elle est nivelée. Surat 88, verset 17 à 20. deux théories donc à Dieu, le trouver physiquement et moralement, extérieurement et intérieurement, profitent de leurs organes de sens et de leurs facultés pour faire de leur vie toute, pour faire de la vie tout entière une adoration par laquelle Dieu les récompensera largement et gratuitement. Cela sans rien de distrait et de négligent que la vie du Tibet a séduit de sorte qu'ils n'ont que des visées mondaines et ne cherchent qu'à se répandre seul un vil détail. Ils courent à l'étang derrière tout ce qui peut procurer un plaisir éphémère, mais fait-il au prix de leur travail, de leur santé, voire leur vie. Comme nous le voyons aujourd'hui un peu partout dans le monde, comment les gens sont payés de leur monnaie aujourd'hui sur tous les plans. Sur le plan social, on assiste à une extension de toutes les espèces de maladies inguérissables, jusqu'à l'énumération des actions humaines. On voit ainsi les maladies vénériennes ou sexuelles atteindre de plus en plus ceux qui s'abandonnent aux patients chamans sans vouloir se conformer à quelque loi que ce soit. Ainsi, la punition divine apparaît nettement dans le dernier milieu mondial qui se caractérise par un syndrome immunodéficitaire acquis, communément reconnu sous le nom de sida, qui frappe aujourd'hui et menace des millions de vies humaines à travers le monde entier. Le sida suffit à lui seul comme problème social, étant donné que tous les musulmans du monde entier, étant donné du moins qu'il n'a pas de remède pour sauver ceux qui en sont atteints. Cela nous protège ainsi que tous les musulmans du monde entier et qu'il fasse que l'on comprenne sa sainte parole suivante. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Tout malheur qui vous atteint et dit à ce que vos mains ont acquis et Dieu pardonne beaucoup, vous ne pouvez échapper à la puissance d'Allah sur la terre et vous n'avez en dehors d'Allah ni maître ni défenseur. Soit 42, verset 30 et 31. Et puis, les hommes entendent l'avertissement suivant de notre prophète et bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne parle pas à l'heure, celui que Dieu a envoyé à l'humanité tout entière comme miséricorde, il dit sallallahu alayhi wa sallam, l'immoralité ne s'est jamais manifestée de façon ouverte dans un peuple sans qu'il se répande parmi eux la peste et les maladies jusque-là inconnues des prédécesseurs. Oui, le prophète Muhammad, prière et salut de Dieu, lui a vraiment dit la vérité. Que ceux qui ont donc des oreilles entendent et que les dîners de raison réfléchissent. Autrement dit, avant d'entendre sa vie. Quant au plan politique, là aussi, notre planète connaît peut-être le problème politique le plus cliché de l'histoire humaine. En effet, il n'y a presque pas de pays en général, en particulier les pays dits sous-développés pour avoir le développement, qui ne vit pas à sa propre flambée des problèmes politiques. Certains sont introduits par le guerre civile, certains d'autres agités et mouvementés par le problème de la démocratie qu'ils considèrent comme seul moyen de résoudre le problème du pays, et seul moyen de résoudre le problème politique, mais qui, en fait, ne fait que de se voir ses partisans du jour au lendemain, de pays en pays et de parti en parti. Résultat, recolonisation. Oui, recolonisation. Les puissances régères et centrales presque partout à mettre, commandant et dictant ce que le bon leur semble, telles sont les filles et les partenaires de Dieu et de la religion des affaires politiques des nations, pour ne pas dire laïcité, de crainte, de toucher aux sentiments peut-être même de notre auditoire. Car la fièvre du prix de la démocratie et de la laïcité n'a peut-être épargné qu'une minorité infime de parmi ceux-mêmes qui professent la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Que Dieu nous protège, ainsi que nos frères musulmans partout dans le monde, et qu'il fasse comprendre aux politiciens et à tous ceux qui cherchent la paix, la sécurité et le bonheur, il n'y a pas mille chemins qui y mènent, il n'y a qu'un seul chemin. C'est celui que le Seigneur de l'univers a tracé pour se créer. Car les dieux de ce message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en constituent les sous. Par conséquent, seule la voie de l'islam permet à l'humanité d'évoluer et de progresser dans la concorde, la chance et la solidarité et la paix. Regardez la jeunesse, dans la seule totalité des pays islamiques en général et en partie des pays islamiques. Regardez la jeunesse de la totalité des pays et en général et en partie des pays islamiques les moins développés. Qu'est-ce qui caractérise cette jeunesse? Regardez les particuliers. Une jeunesse foirée dès le bas âge, les connaissances et le chômage, la délinquance, la drogue, les travaux, la violence, les jeux, la perversion, la débauche, le sommeil. Une jeunesse qui, de jour au jour, perd toute aspiration à des idéaux moraux plus élevés. Une jeunesse qui s'engouffre chaque matin dans les abîmes de la perdition et de l'initiation, ou du moins, et de l'imitation aveugle. Une jeunesse qui ne peut plus distinguer son ami de son ennemi. Elle répond à tous les cris du monde, d'où qu'ils viennent, de qui ils viennent, et de quelque manière qu'ils viennent. Une jeunesse foirée par l'alcool et les sexes, dites-moi, est-ce cela le progrès de la civilisation? Est-ce de cette façon que les pays peuvent progresser sur tous les plans? Est-ce de cette façon qu'on espère se libérer de tout ce qui est étranger à soi? La hawla wa la quwwata illa billah. En vérité, le problème de la jeunesse islamique en particulier fait beaucoup penser. C'est une jeunesse inerte. Et quand elle agit, c'est contre elle-même qu'elle agit. Car pour tous les malheurs qui lui arrivent, elle n'a de solution que se prendre au pouvoir en place ou déclarer la grève. Mais aux jeunesse, à qui tu fais du mal en te prenant au gouvernement? Mais ce qui passe, c'est le gouvernement, c'est toi, ou bien aujourd'hui, ou bien demain. À qui tu fais grève? Qui en sort perdant? Toi, ou le gouvernement, ou le peuple? En réalité, c'est le peuple, c'est le gouvernement qui se fait victime de ces agissements, de ta grève et de ton sommet. Les pays ont besoin d'une jeunesse qui se connaît, d'une jeunesse laborieuse, d'une jeunesse capable de réfléchir et de se frayer un chemin vers le bonheur terrestre et céleste. Jusqu'à quand comprendra-t-il cette jeunesse? Si les hommes sont des fous, qu'ils veillent bien à leur savoir et à admettre que l'arrêt et la parole de Dieu ne souffrent point de changement sous quelque ciel que ce soit et sous quelque temps que ce soit. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. Dieu ne change pas le sort d'un peuple tant que celui-ci n'a pas changé son propre sort. Et lorsque Dieu veut infliger un mal à un peuple, nul ne peut le repousser. Il n'y a en dehors de lui aucun protecteur. Surat 13, verset 1. Et le changement du sort d'un peuple ou d'un individu par Dieu sera positif ou négatif selon l'orientation vers le bien ou vers le mal que l'homme se serait choisi. Dieu se sera exalté Dieu en effet. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. Et en vérité, l'homme n'a rien que ce à quoi il se force, et qu'en vérité, son effort sera bientôt vu au grand jour. Chapitre 53, verset 39, 40. Jésus s'est exalté, lui a dit à propos des peuples, ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بها وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. Si seulement les gens de Tiché avaient cru et avaient été tués, leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Mais ils ont démenti et nous les avons donc saisis pour ce qu'ils avaient acquis. Les gens des futurs sont tous sûrs que notre châtiment vigoureux ne leur provient pas la nuit pendant qu'ils sont endormis. Les gens des futurs sont tous sûrs que notre châtiment rigoureux ne leur provient pas le jour pendant qu'ils s'amusent. Ou bien sont-ils à l'abri des stratagèmes de Dieu? Seuls les gens perdus se sentent à l'abri des stratagèmes de Dieu. Chapitre 7, verset 96 à 99. Ce qui est dit ici concernant le plan social et politique s'applique aussi à bien méfiant aux autres domaines, à savoir le domaine économique, le domaine éducatif, le domaine religieux, etc. Ce dernier domaine, c'est-à-dire le domaine religieux, mérite qu'on lui consacre à lui seul une cagette, à cause notamment de son importance et de la gravité de la situation des musulmans aujourd'hui dans le monde entier. Dans tous les cas, il s'agit de ce domaine ou de l'autre, c'est qu'il faut savoir que la règle immuable et l'arrêt irrévocable de Dieu concernant le bonheur de l'homme en général et en particulier celui des peuples. Cette règle divine se résume dans ces paroles suivantes. Voilà, après. إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Dans les temps, l'humanité œuvre à sa perte, hormis ceux qui croient, accomplissent les bonnes œuvres, se recommandent la vérité et se recommandent la patience. Chapitre 33 du Saint-Coran. Quiconque mal ou fait mal fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons certes vivre une bonne vie et certes nous le récompenserons. C'est-à-dire tout ce qui accomplit les bonnes œuvres est en croyant en fonction, et certes nous le récompenserons en fonction des meilleurs de leurs œuvres, de leurs actions. Chapitre 13, verset 97. Quiconque suit mon guide, c'est-à-dire la voie de Dieu, ne se déclarera ni ne sera malheureux, et quiconque se détourne de mon rappel mènera cette une vie pleine de jeûne, et le jour de la résurrection nous l'amènerons à veuve au rassemblement. Il dira: ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené à veuve alors qu'auparavant je voulais? Allah lui dira: de même que nos signes et enseignements étaient venus et que tu les as oubliés, de la même façon on t'oublie aujourd'hui. C'est ainsi que nous sanctionnons l'outrancier qui ne croit pas aux révélations de son Seigneur. Certes, le châtiment de l'au-delà est plus sévère et plus durable. Chapitre 20, verset 123 à 127. En vérité, Dieu n'est pas injuste à l'égard des gens, mais ce sont les gens qui se font de tort et tort à eux-mêmes. Et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré, et ton Seigneur ne fait du tort à personne. Chapitre 10, verset 44, et chapitre 18, verset 49. Quiconque fait un bien, fils du poids de Nathan, en sera récompensé, et quiconque fait un mal, fils du poids de Nathan, en sera pareillement récompensé. Chapitre 99, verset 7, 8. Ne perdons pas de vue que nous parlions tantôt des distraits, ceux qui ont oublié Dieu et ses enseignements, et par conséquent, Dieu les a fait s'oublier eux-mêmes. Dieu a dit à propos d'eux: nous avons destiné beaucoup de dîmes et d'hommes pour l'enfer, ils ont des cœurs, mais ils ne comprennent pas. Ils ont des oreilles, mais ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ceux-là sont comme les déchets, même s'ils les égarent encore, tels sont les insouciants. Chapitre 7, verset 179. Allah nous préserve de son oubli, de l'insouciance et de la distraction, et qu'il nous aide à être parmi ceux qui se rappellent de lui, partout, et à tout instant, et dans les états, et dans tous les états, amis. Il a en effet dit: Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wal tanzur ma summa qaddamat li ghadin
واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون أو بوك أذكري كريمي الله في شك أم وابين كتلا أبانسي قردني كريمي الله كرا الله إفاق سما كنسو بسكي وفاك إن شايتا كنسو في يوم أبلي الله الله لرعفي على أبلي لرسوك وفرسن وفي الأسوان لترغير ne seront pas égaux les gens du feu et les gens du paradis. Les gens du paradis sont eux les damnés. Chapitre 59, verset 18 à 20. Nous savons aussi que le Coran tout entier n'est descendu que pour que les gens le méditent. Réfléchissent dessus, crée ces versets pour comprendre le sort de Dieu et ses introductions. Pour savoir ce qui plaît à Dieu afin de le faire et gagner par là la satisfaction de Dieu et qui va dans le débat, et pour savoir aussi ce qui déplaît à Dieu afin de l'éviter pour encore gagner la satisfaction divine. En effet, la soumission à Dieu se fait par la soumission au commandement de Dieu et l'exécution de ses ordres, comme elle se fait par l'éloignement physique et moral de tout ce que Dieu a interdit. Dieu qui soit lui exalté a dit à propos de la méditation de son Coran, Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa yatadhakkara ulul albab. Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi afin qu'il médite sur ce verset et que les doués d'intelligence réfléchissent. Surat 38, verset 29. Mais hélas, ils sont ceux qui lisent le Saint-Coran en le méditant. Ils sont ceux qui lisent le Saint-Coran en réfléchissant sur le sens des versets. Combien de nous lisent et relisent le Coran sans en pénétrer le sens, ou même le sens, sans en pénétrer le sens, ou même le sens d'un verset ou d'un mot. Comment peut-on pénétrer le sens du Coran ou de ses versets? Si on ne s'arrête pas dessus pour mériter de sorte qu'à la lecture des versets évoquant la miséricorde de Dieu ou le paradis, on demande à Dieu sa miséricorde et le paradis, et par taille des versets qui évoquent les châtiments de Dieu et le feu, on demande à Dieu la protection contre le corps de son courroux et de son châtiment. En lisant les versets qui font cas de qualité de bon croyant, on demande à Dieu de nous offrir par notre Dieu serviteur, puis on met en pratique ce qu'on a lu autant qu'on le puisse, car il ne sert à rien de demander quelque chose à Dieu sans remplir les conditions qui permettent d'obtenir une telle faveur. Par exemple, en demandant à Dieu de nous accorder une bonne progéniture, on doit se marier afin que Dieu concrétise notre vœu. Et en lisant les versets qui évoquent les mauvaises actions des gens que Dieu a punies, car fini à cause de ces mauvaises actions, on doit demander à Dieu la protection et la sauvegarde contre tels actes et de tels comportements. C'est pourquoi le prophète prier au salut de Dieu lui a dit, lis le Coran avec profit autant qu'il t'empêche d'accomplir les actes interdits. Si ta lecture ne t'empêche pas de pratiquer les actes interdits, tu ne pointes alors lecteur du Coran. Et les gens dorment, et les jours quand les autres quand les autres sont négligents, il doit être reconnaissable par sa tristesse quand les gens se réjouissent, par sa pleure quand les autres rient, par son silence quand les gens sont en grande conversation, par son humilité quand les gens sont fiers. Il doit être humble et doux, non pas grossier, querelleur, brailleur, vociférateur, ni violent. On rapporte également que celui qui récite le Coran a inséré la prophétie entre ces deux plans, sauf que cela ne comporte pas l'acte même de la révélation. Le compagnon du Coran ne doit pas se fâcher avec ceux qui se fâchent, ni être insouciant avec les insouciants, alors qu'en lui se trouve la parole d'Allah. Tous ces récits nous montrent ce qui doit caractériser le lecteur de son Coran, contrairement à notre situation. qu'Allah nous fasse miséricorde et nous rende maître de nos âmes et de nos pensées partout et toujours, et surtout au moment de lire le Saint-Coran. Dieu nous a fait sortir, nous dit, لأنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, il aurait vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Et ces paroles et ces paraboles, nous le citons aux gens afin qu'ils le réfléchissent. Chapitre 59, verset 21. Mais où sommes-nous par rapport à ceux qui réfléchissent en lisant les versets de Dieu ou en les écoutant réciter par les autres? Quand nous voyons la majorité des gens devant leur filière, comment ils se grattent le corps et comment ils se mouvementent de gauche à droite et de droite à gauche, comment on met le nez dans la poche en cherchant un mouchoir ou se moucher ou se cracher, et comment on touche au nez, à la bouche, à la barbe, au voile. En voyant tout cela, on peut comprendre que nous sommes encore loin de ceux qui sont pris de révérence, de crainte et de foi en entendant la récitation de Saint-Coran. Or, Dieu, qui soit exalté, a dit « إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذَكَرُوا اللَّهَ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الذين يقيمون الصلاة إلا رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Les vrais croyants sont ceux dont le cœur refroidit quand on mentionne Allah. Et quand ces personnes le font réciter, cela fait augmenter leur foi et ils placent leur confiance à leur Seigneur. Ceux qui accomplissent la salade et qui dépendent de la voix de Dieu, de ce que nous leur avons attribué, ces enfants en toute vérité les croyants et à eux des degrés élevés auprès de leur Seigneur ainsi qu'un pardon et une généreuse dotation. Chapitre 8, verset 2 à 4. Nous voyons ici que Dieu nous prévoit à mentionner les vrais croyants et la situation dans laquelle se révèle leur crainte de Dieu et leur piété, c'est-à-dire au cours de la prière et au moment de dépenser pour la cause de Dieu. En effet, celui qui n'a pas craint Dieu de la prière où il se tient du moins devant son Seigneur, où il dialogue avec lui directement, je ne vois pas où peut-il prendre Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a fait soit-il à déclarer dans une autre sourate de son Saint-Coran que le Coran qui le craint dans leur prière, c'est-à-dire au moment de la prière et en dehors de la prière aussi, sont les seuls bien-aimés ici-bas et dans l'au-delà. Et à eux seront réservés les plus beaux lieux du paradis. Il dit قد أصلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر الآيات من بداية سورة المؤمنون. Bien-aimés sont faits les croyants, ceux qui sont rendus dans leur place, qui se défendent les futilités, qui s'acquittent de la zaka, qui présentent leur sexe, qui préservent leur sexe de tout rapport orné avec leur épouse ou les esclaves qu'ils possèdent, car là, ils ne sont nullement blâmables. Alors que ceux qui cherchent à avoir des rapports au-delà de ces limites sont des transgresseurs. Voilà toujours de la qualité, ceux qui veillent à la théorie des dépôts confiés à eux et honorent leurs engagements et qui observent strictement leur salam. Ce sont eux les héritiers qui hériteront le paradis pour qu'ils demeurent éternellement. Chapitre 23, verset 1 à 11. Allah le très miséricordieux nous compte parmi eux, amin. Ce verset et bien d'autres nous montre que le but de toute adoration est la richesse de la crainte de Dieu et l'acquisition de la piété. C'est ce qu'on appelle à taqwa, c'est-à-dire la crainte de Dieu ou la piété. Ainsi, la crainte de Dieu est le but de toute adoration adressée à Dieu, et l'adoration elle-même est le but de la création de l'homme et de Jésus, comme nous l'avons toujours souligné. C'est pourquoi on dit que deux personnes peuvent prier côte à côte dans une même mosquée et une même prière, mais il y aura entre leurs deux prières une distance égale à celle qui sépare le ciel de la terre. Car l'un se concentre durant toute sa prière en méditant et en réfléchissant sur ce qu'il lit ou ce que lit le climat, tandis que l'autre ne présente que du corps seulement. Elle le voit physiquement dans le rang, mais sa pensée et son cœur sont peut-être dans un autre continent. occupés aux substances sataniques et aux affaires de ce monde. C'est pourquoi Dieu, c'est ça, exacté, dit à propos de la piété, pour couper court à ceux qui pensent que la crainte de Dieu ou la piété consiste seulement à se tenir devant, à se tenir debout, à s'inquiéter, à se positionner, c'est-à-dire à faire le mouvement corporel auquel on n'accorde aucun point, ni crédit. Dieu dit pour leur couper court, ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والمؤمنون بأحدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وهنا البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وأولئك هم المتقون جي دونك la bonté de Dieu ne consiste pas à tourner vos visages vers les levants ou les couchants, mais la bonté de Dieu est de croire en Allah au jour dernier, aux anges et livres, aux prophètes, de donner de son bien quelque amour comme la mer, aux proches, aux orphelins, aux nécessités, aux voyageurs indigents et à ceux qui dépendent. À ceux qui demandent l'aide pour racheter les prisonniers, d'accomplir la salade et d'acquitter la zakat. Et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont environ de la misère, la maladie, et quand le combat fait rage. Mais voilà, ceux-là sont les véridiques et les vrais tueurs. Chapitre 2, verset 177. Dieu Christ a été lié à mentionner dans ce verset 17 conditions dans lesquelles on ne peut prétendre à la piété. Il faut se rappeler qu'au début de la persécution de la prière, le compagnon priait et se mouvementait beaucoup dans la prière comme il faisait aussi des signes pendant la prière, comme on en fait aujourd'hui. À cause de cela, Dieu fit descendre les versets suivants. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وقوموا لله قانتين سوي أتجي الصلاة السلطو للصلاة مجان تقول سوي أتجي أطرير السلطو للأطرير مجان سيد الأطرير مجي سيد الأطرير اتنو بو جبو جبا الله عزيز إمريكي اتنو بو جبا الله avec humilité. Chapitre 2, verset 238. On rapporte que le prophète, lui, le salut de Dieu, celui, a passé une fois toute une nuit entière à répéter un seul verset et à pleurer. Et ce verset est le suivant. In tu'azibum, fa innahum ibadu, fa in taghfir lahum, fa innaka antal aziz al-hakim. Si tu les châties, sans te faire de peur, et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant des anges. Chapitre 5, verset 32. Ce verset est la parole du Saint, c'est-à-dire de Jésus, fils de Maïm, que la paix de Dieu soit sur lui, qui après avoir affirmé qu'il est totalement innocent de ce que les chrétiens, c'est-à-dire ses disciples, ont amputé à Dieu en prétendant que Jésus et sa mère sont de divinité. Il sait bien que l'aveu de cette amputation mensongère, lui a déclaré dans ce verset que nous venons de lire, Et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le répétait toute une nuit en pleurant, pensant à sa communauté et ce qu'il peut innover dans l'islam. Ne devons pas de vie que nous parlions tantôt sur la méditation du Saint-Coran au cours de sa récitation ou de son écoute. À ce propos, le compagnon affirme qu'il n'apprenne pas au-dessus des 10 versets du Coran jusqu'à ce qu'ils aient su leur sens et mis en pratique ce qu'il renferme ou ce qu'il contient, comme directif. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous nous intéressons uniquement à la lecture sans prêter attention au sens des versets ni à la mise en pratique de ce qu'il recommande. On s'intéresse uniquement à ceux qui chantent le Coran même s'ils ne connaissent nullement la signification de ce qu'ils disent.
Or, il est dit dans un hadith qu'à la fin des temps viendront des lecteurs du Coran qui salmodient le Coran à la manière des chanteurs en répétant les versets, des lecteurs dont la lecture ne dépasse pas leur gorge et qui seront des objets de tentation pour ceux qui les écoutent. Allahu Akbar. C'est pourquoi il est encore dit dans un autre récit que celui qui vous fait penser qu'il craint Allah lorsque vous l'entendez réciter le Coran, celui-là a la plus belle voix pour le réciter. Qu'Allah puisse protéger son livre, le serviteur et l'autre connaissant et l'autre connaisseur, amis, je veux dire par là, ceux qui lisent en s'intéressant uniquement à la voix musicale sans se conformer même aux règles du tajwid, ou ceux qui lisent sans viser la face de Dieu. Toujours à propos de la méditation et de la réflexion sur le verset du Saint-Coran, Dieu le Très-Haut a dit « Afala et tadabbaruna al-Qur'ana an ala qulubin aqfaluha » Ne médite-t-il pas sur le Coran, ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur ? Chapitre 47, verset 24. Et il dit encore « Afala et tadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi khayrillah le wajidu fihi ikhtilafan kathira » Ne médite-t-il donc pas sur le Coran, s'il provenait d'un autre, qu'Allah y trouverait cette même contradiction, chapitre 4, verset 82. Réponse donc à ces injections divines, nous allons faire, Inch'Allah, une petite réflexion avec vous sur un verset du Coran, dans lequel Dieu, comme il l'a toujours fait, nous invite à la réflexion sur tout ce qui nous entoure, afin de prouver par la même son existence, son pouvoir, sa miséricorde, son habileté, sa générosité, etc. Dieu le Très-Haut dit au verset 24 du chapitre 80, Qu'al-yanzur l'insan ila ta'ami. Que l'homme considère donc sa nourriture. Pourquoi cette injonction à la réflexion sur la nourriture? Dieu, d'abord rappelons-nous les passages qui précèdent ce verset où Dieu dit à propos du Coran, cette écriture constitue en vérité un rappel. Que ceux qui le veulent en méditent le sens. Un rappel transcrit sur le fait vénérable, fait d'une pure essence transcendante et qui reçoit des anges, servant de scribe, ange auguste, de toute pureté, périsse l'homme. Périsse l'homme, quel ingrat! Oublie-t-il d'où Dieu l'a tiré? Il a créé une goutte de sperme. Il l'a transformé à son gré. Puis il lui montra sa voix, puis il le fait mourir et le mettre au tombeau, puis lorsqu'il voudra, il le ressuscitera. L'homme n'a pas achevé pour autant d'accomplir ce que Dieu lui a prescrit, que l'homme considère donc sa nourriture. Bien, cette nourriture dont Dieu a fait une cause de l'entretien de la vie, cette nourriture pour laquelle l'homme travaille mieux ses jours. La question est plus importante que l'on ne l'imagine. En effet, la nourriture est avant tout une création de Dieu, une production de sa sagesse, et à travers elle, nous pouvons déduire plusieurs attributs divins, entre autres les pouvoirs, les savants, les très informés, les sages, les visiocodés, les généraux, les guides, les éducateurs, les formateurs, etc. Comment pouvons-nous démontrer à partir de notre nourriture que Dieu est le pouvoir? Dieu est cette lumière qui nourrit l'homme alors qu'il est encore au sein de sa mère. Nul en dehors de Dieu ne peut se charger de la responsabilité de nourrir l'embryon, ni la mère, ni le cœur, ni l'État, ni le gouvernement, ni le peuple, ni personne d'autre. C'est Dieu seul en effet qui a créé le tuyau, c'est-à-dire le cordon ombilical par lequel la nourriture de l'embryon lui parvient de sa mère. Nul n'a demandé l'existence de cordons ombilicaux dans le ventre de la mère, de la femme, avant qu'il ne tombe engrossé, avant qu'il n'y ait un être désigné au sein du ventre. C'est par le biais de ce cordon que l'embryon est alimenté pendant 9 mois en moyenne, et lorsqu'il est sorti du ventre de la mère et que le cordon s'est coupé, Dieu a ainsi mis fin au fonctionnement du cordon par lequel s'alimentait l'embryon. Est-ce que cela veut dire la fin de notre embryon? Est-ce que Dieu l'a laissé sans aucun autre moyen d'alimentation? Très certainement non. En effet, il lui a ouvert une nouvelle voie par laquelle il peut s'alimenter. C'est ainsi qu'il lui a préparé un ventre
avec un appareil digestif, et tout ce qu'il contient, une bouche, etc. Est-ce que la mère a joué un rôle dans la fabrication de ces organes de façon pragmatique, de volontaire? Est-ce que la mère et le père ont contribué à leur élaboration, ou les femmes et les peuples se sont associés pour les inventer, ou pour mettre à jour une seule goutte de sang ou une seule fibre de mer? Est-ce que les autres créatures de la nature, telles que les montagnes, les arbres, les étoiles, les planètes, etc., se sont-elles chargées de l'organisation de la subsistance et de la nourriture du bébé? À présent, pour la sortie du ventre, en tant que bébé, ne pouvant distinguer sa gauche de sa droite, ni le haut du bras, ne pouvant manger ni céréales, ni fruits, ni viande, ni pain, alors que sa nourriture a été coupée par la couture du cordon, le Seigneur Très-Haut n'a pas laissé sa créature à ce stade. Il lui a ouvert une nouvelle source d'alimentation qui est le sein de la mère, ce sein qui, avant la naissance, était vide, sec, ne contenant aucune goutte de lait, le voilà maintenant par une ingéniosité de Dieu qui gonfle de lait. Et remarquez quand il y a plusieurs nécessités du lait à la naissance, les sources de ce lait sont multipliées telles qu'on le connaît chez la chaîne par exemple. Puis, le Seigneur a inspiré à sa créature le sucage ou l'allaitement. Voyez bien qu'à la naissance, le bébé ne voit pas ni ne distingue ce qu'il entoure, mais il s'assomme de toutes ses forces pour chercher le sein de sa mère. Faisons attribuer tous ces faits, toute cette organisation minutieuse et combien sage au produit du hasard ou à l'intervention de cette nature figée qui nous entoure. Y a-t-il donc quelqu'un qui prend part à la fabrication de cette alimentation? Est-ce le processus s'est-il arrêté? Non, car bientôt viendront d'autres frères à se lever qui auront eux aussi besoin de cette place, de ce lait. Et l'enfant lui-même commencera à sentir le besoin de se détacher de sa mère et d'être libre de lui-même. Il faut donc obligatoirement trouver une nouvelle source d'alimentation puisque l'être vivant ne peut rester sans alimentation. Et remarquez que l'enfant lui-même tarit dès qu'il y a un nouveau bébé qui s'avance, de façon à obliger le premier à céder la place. Alors, c'est ainsi donc que le Seigneur qui a inventé les deux premières sources pour sa créature va lui ouvrir une troisième source qui est cette fois-ci la terre et tout ce qu'il renferme comme richesse. Il a donc préparé cette terre pour qu'elle soit la source dernière de laquelle l'homme qui relève sa nourriture jusqu'à sa mort et qui est la mort qui est une étape vers une autre vie. Voyons comment le Seigneur nous a préparé cette terre pour qu'elle nous serve de mer nourricière. Celui Dieu qui a créé le sol en ce moment, celui Dieu qui a créé l'eau dans les plantes et autres ont besoin pour la fabrication de la nourriture, pour non seulement notre bébé, mais pour tous les hommes. Celui Dieu qui a créé l'air dans les plantes et arbres ont besoin pour leur fabrication de la nourriture. Celui Dieu qui a créé le soleil dans ces plantes ont besoin de la chaleur pour leur fabrication de la nourriture. Celui Dieu qui a créé ces plantes partout dans le monde et cela en quantité et qualité indéfinie. À partir de là, il a fait sortir les fruits et par sa sagesse et sa bonté a réuni les fruits qui sont petits sous forme d'épis, tels que les mûres, les blés, les sorgho, et sous forme de régime ou gras, tels que le raisin ou la vigne, et sous forme de régime comme la banane et la date. Parmi ces plantes, il y a qui donne son fruit à la terminaison de ces tiges, d'autres sur le bourgeon, tels que le maïs, et enfin d'autres qui se lancent en haut ou s'étalent, tandis que le fruit se trouve sous le sol, tels que les manettes et l'igname. Et quant aux grands fruits, qui sont l'eau, le Seigneur Très-Haut les a créés séparément afin de faciliter à l'homme leur transport et leur consommation. Puis Dieu a créé pour notre bébé des dents, à savoir des canines et gencives, une langue pour la mastication
la salle pour l'imprégnation, et pour que notre bébé puisse faire ce usage de ses fruits mis à sa disposition. C'est ainsi qu'en réfléchissant sur notre nourriture, nous pouvons mettre en évidence cet attribut divin qui est le pouvoir. De la même façon, nous pouvons montrer à partir de notre nourriture que Dieu est le savant, le très informé, le sage, le miséricordieux, le généreux, le guide, le vivificateur et le formateur. Comment peut-on démontrer à partir de la nourriture que Dieu est savant? La démonstration est simple, car celui qui a fait parvenir à l'homme sa subsistance alors qu'il était encore dans les ventres de sa mère, celui-là a sans doute su que l'homme a besoin de la nourriture, que l'homme a besoin de la nourriture, et par conséquent, il lui a fait parvenir cette nourriture en lui fabriquant le cordon ombilical par le biais duquel la subsistance parvient à l'homme étant encore au sein de la mère. Il a encore su au moment de la sortie du ventre, c'est-à-dire après la naissance, que l'homme a besoin là aussi de la nourriture. Par conséquent, il lui a créé le lait à partir du sein de la mère. Il a su aussi que le sol ensemencable a besoin de l'eau et que les plantes ont besoin de sols minéraux dans les sols. Il a créé tout cela pour faciliter l'enracinement des plantes et des végétaux dans les sols, et il a su aussi que les plantes ont besoin de la lumière du soleil pour la photosynthèse chlorophyllienne. Il a créé alors les feuilles de plantes et fourmis ou exposées à cette lumière du soleil. Puis, il a su que les plantes ont besoin de l'eau. Il a par conséquent fait descendre l'eau du ciel en quantité suffisante. On peut conclure conséquemment, et sans aucun doute, qu'Allah, gloire à lui, est le pouvoir du savant subhanahu. Comment démontrer à partir de la nourriture qu'Allah est le sage? Cher frère, si tu peux constater la précision et la conformité du cordon ombilical avec le corps de l'enfant, de sorte que leur développement soit proportionnel au sein de la mère, et si tu connais constater la liaison combien parfaite et adaptée qui existe entre le cordon ombilical et l'utérus de la femme, et si tu connais constater la perfection de la fabrication du lait de la mère de sorte qu'il s'adapte au développement de l'enfant, si tu connais constater la disposition ingénieuse de différentes parties de plantes au cours de leur stade, différents stades de développement, et la façon dont les fruits sont fabriqués, et la façon dont ils sont conservés ou emmagasinés, si tu connais tant soit fait tout cela, tu seras alors de façon convaincue que cela est l'œuvre de Dieu, le pouvoir du savant, le sage. Comment démontrer à partir de la nourriture qu'Allah est le subtil, le bien informé et l'expert? Il n'y a pas de doute que le transfert de la nourriture de la mère à l'embryon, par les biais du cordon ombilical à travers le sang et tout ce qui contient le ventre, il n'y a pas de doute que cela fait appel à l'ingéniosité d'un expert et à la subtilité d'un informé. Ne vois-tu pas, cher billet de raison, que même les passages de composants d'une injection à travers la veine fait appel à une expérience et à une sagesse, de sorte que ce n'est pas n'importe qui peut prétendre à une telle opération? Alors même que c'est une opération qui ne dure que quelques instants. De la même façon, on voit comment se fait l'opération de l'apaisement d'un serin, qui est dure alors du transport continu de la nourriture pendant 9 mois en moyenne de la mère à l'embryon, sans que la mère soit gênée ou que l'embryon le soit. De la même façon, la production du lait et la fabrication du lait à partir de la nourriture de la mère, c'est appelé obligatoirement une expérience et à une sortie et à une sagesse d'un sage. De la même façon, la formation des semences et des fruits, avec la variété de formes, de couleurs et de goûts, alors qu'ils sont parfois du même sol, sont arrosés par la même eau, ont ayant respiré le même air et profité du même pouvoir lumineux venant du même soleil, n'est-ce pas, cher auditeur, que tout cela prouve clairement qu'il est l'œuvre de Dieu, le subtil, le pouvoir, le savant, le sage. Comment démontrer à partir de la nourriture qu'Allah est le très miséricordieux?
si tu peux constater, cher frère en Dieu, l'incapacité de l'embryon, de la richesse de sa subsistance, si tu peux constater l'incapacité du nourrisson de la richesse de sa nourriture, si tu peux aussi constater l'incapacité de l'homme à se fabriquer les semences, les fruits, la pluie et l'air, si tu peux constater tout cela, tu sauras alors comment Dieu, par sa miséricorde, a choisi son serviteur à lui fabriquer ce dont il a besoin, entre autres, la nourriture étant dans le ventre de la mère, le lait du sein, les fruits des plantes. En sachant tout cela, tu peux toi-même conclure que tout cela résulte de l'œuvre de Dieu, le pouvoir, les sages, les savants, les subtils et les très miséricordieux. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Comment démontrer à partir de la nourriture qu'Allah est régénéré? L'homme, quand il assume la responsabilité de nourrir gratuitement 10 personnes, les gens le nomment généré. C'est-à-dire alors de celui qui assure la nourriture de l'humanité tout entière et plutôt la nourriture de tous les êtres vivants. Ça, cela suffit pour l'argument qu'Allah est légitime. « Toma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizqaha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. » Il n'y a pas de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah, qui connaît son gîte et son dépôt. Tout cela, tout est dans un livre explicite. Chapitre 11, verset 6. Comment démontrer à partir de la nourriture qu'Allah est légitime? Tu vois bien comment le sein de la mère gonfle de l'eau après la naissance. Qui a donc guidé le sein à ce processus? Et qui a guidé les bébés au suffrage de ce sein qui se rentrait de l'eau? Sans doute cela résulte de l'œuvre de Dieu le Fils. Et tu vois aussi bien la graine, après avoir fendu le sol, c'est la mort qui dirige vers le haut en portant sur eux les feuilles, tandis que les racines s'enfoncent vers le bas, c'est-à-dire vers le sol. Et cela se passe même si la graine est renversée. Cela ne témoigne-t-il pas que Dieu est le Fils? Si. Et les feuilles de tout arbre aussi, tu vois comment elles sont disposées selon un système bien proche, de sorte qu'elles s'exposent toutes au soleil sans qu'une feuille couvre une autre feuille. Subhanallah. Qui a donc guidé chaque feuille à sa place juste? Sans doute, c'est Dieu le guide, le pouvoir, le sage, le savant, le soutien, le très miséricordieux et le généreux. A lui, toute la gloire. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى ويرشي لنا لسنسنيا لفرهو سبيك يكري في أجانس أرمونيزما أرمونيزما في أبيك وشي يجيب شابتر سبحان 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 كما دمونتري أفاسد لأنيوتي كلا إسليك تجيبرا كذل لبيش كذل سبحان لو لا 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 tous sont tous des matières qui ne jouent pas de la vie, qui ne se développe, qui ne se développe pas, qui ne se meuve pas, qui ne respire pas, qui ne s'accouche pas et qui ne mange pas. Et pourtant, nous voyons Allah le Créateur absolu, créé à partir de ces matières inertes, des plantes et des arbres qui se développent, qui respirent, qui bougent, qui se nourrissent, qui s'accouchent et donnent naissance aux fruits et aux semences. En sachant que c'est lui le Créateur qui a créé à partir de ces matières inertes, des arbres et des plantes qui jouent de la vie, avant tout cela, on ne peut que conclure que c'est lui Allah qui fait vivre, qui donne la vie, c'est lui le pouvoir, le sage, le savant, le subtil, le très miséricordieux, le généreux, le guide, exalté et le châti. Comment démontrer à partir de la nourriture qu'Allah est le modélateur, le formateur? Que dis-tu en voyant un bout de terre devenir un arbre fruitier, bien modélé dans sa forme? J'espère que cela résulte de l'œuvre d'un modélateur parfait et d'un formateur qui se connaît en toutes choses. Et quand nous voyons la terre que Dieu a dirigée se transformer par l'ordre de Dieu en arbres et plantes, aux formes, aux couleurs et aux fruits divers, de sorte que chaque arbre a sa forme propre à lui, à travers ses feuilles, ses racines, ses branches, ses fleurs et ses fruits, en voyant tout cela, on est forcément conduit à se poser la question suivante. Qui donc a transformé la terre, l'eau, l'air, la lumière solaire en des jardins spectacle, combien beau de la tour qu'a cette image qui soit. Il n'y a pas de doute que tout cela témoigne publiquement qu'il est aux œuvres de Dieu, le modélateur parfait et le grand commandant. C'est ainsi que la méditation et la réflexion sur la création de Dieu et sur notre nourriture quotidienne que nous sommes peut-être présentement en train de manger nous a conduit à mettre en évidence quelques-uns des attributs de notre Seigneur, le Creux. C'est ainsi que l'organisation minutieuse et excellente de notre nourriture a témoigné pour nous que l'œuvre de Dieu est le grand couvain. La sagesse et la perfection de la création des choses nous ont mis en évidence que Dieu est le sage. L'ingéniosité et l'expertise à travers la fabrication de tout ce que nous venons de voir nous ont conduit à réussir que Dieu est le bien informé et le futur. La technicité et la science avec laquelle les dispositions des créatures sont faites nous ont mis en évidence l'attribut de Dieu le savant. La miséricorde de Dieu et sa grâce à travers la création des choses nous ont montré qu'il est bien le premier du côté. De même, nous avons mis en exemple que Dieu est le généreux, le Dieu, celui qui fait vivre et qui donne la vie, le modulateur et le formateur, à travers respectivement sa vaste générosité, sa guidance inspirée au créateur, la vie à partir de nature inerte, et enfin, les différentes formes et images de ce qu'il a créé. À quoi faire la connaissance de ces attributs de Dieu? À quoi faire la connaissance des attributs de Dieu? En connaissant ces attributs, on peut connaître les qualifier. Car si on sait en effet que celui qui a créé, la nourriture et le pouvoir, le sage, le futur, le savant, le très miséricordieux, le généreux, le guide, celui qui donne la vie et le modulateur, en connaissant tout cela, alors on les attribue à Dieu uniquement sans aucune association. Car lui seul mérite ces attributs. La nature à laquelle les nécréants et les athées attribuent la création des plantes et autres ne possède point ces qualités. En effet, la nature ne commande aucune organisation à plus forte raison lui attribuer l'organisation de notre nourriture. Elle ne possède non plus une volonté, ni sagesse, ni expertise, ni ingéniosité, ni savoir, ni science, ni miséricorde, ni générosité, ni guidance, ni vie. Pour elle, a posteriori que les autres choses. Ni modulaire de fait consiste à l'isoler que c'est elle qui a créé et modelé le seul corps d'image et vu de ce qui nous entoure. Ce qui est dit concernant la nature, c'est dit aussi au sujet de toute idole ou statue ou divinité auquel les hommes se sont attachés dans le passé comme dans le présent. Que nous sachions donc et que nous soyons convaincus d'une fois inébranlable que c'est Dieu seul qui est le pouvoir de l'univers tout entier. Lui qui nous a créé les arguments et preuves qui conduisent à lui et à sa connaissance à travers ce créateur. Il dit gloire à lui dans son sein libre. فينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وغضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم كلام قصدر جانب تعمل فيه سنوك جسن لي أبندان Puis nous faisons la terre, par fissures et y faisons pousser grains, vignobles et légumes, oliviers et palmiers, jardins touffis, fruits et herbages. Pour votre jouissance, vous et vos bestiaux. Chapitre 80, verset 24-32. Conclusion. En concluant cette petite réflexion, on peut rappeler le point suivant. Le premier point. C'est qu'Allah le Très-Haut nous a ordonné de méditer et de réfléchir sur notre nourriture, car en toute chose qu'il a créée, il a mis des preuves tangibles qui nous conduisent à la connaissance de certains de ses attributs, et plus nous connaissons ses attributs, plus nous le connaissons. Le deuxième point, c'est qu'en réfléchissant sur la façon dont Dieu a exercé son appel à conduire la nourriture à l'homme, alors que celui-ci était encore au sein de la mer, puis comment il a fait produire le rêve à partir du sein de la mer, et enfin, comment il a tiré pour l'homme sa subsistance à partir de plantes et herbes de la terre, en réfléchissant sur tout cela, nous saurons que Dieu est vraiment celui qui nourrit le grand pouvoir. Le troisième point, nous savons également à partir de cela que Dieu est le parfait sachant et le parfait sachant. Car il a tous les besoins de l'homme pour la nourriture alors que celui-ci était encore à l'état de terre ou embryonnaire. Et il a fabriqué donc cette nourriture pour combler ses besoins. Il a fait aussi que l'homme sortira du ventre de la mère et qu'il aura là aussi besoin de la nourriture. Par conséquent, il a fabriqué de lui à partir du sein de la mère. De même, il a su, avant même la création de l'homme, que celui-ci aura besoin d'une autre source d'alimentation après le sevrage, et par conséquent, il lui a créé la nourriture à partir de la terre, de l'eau et des plantes. De même, il a su le besoin de plantes et arbres pour la lumière du soleil, pour la fabrication de la chlorophylle. Il a alors créé les feuilles de sorte qu'il soit tout exposé à cette lumière du soleil. Le quatrième point, nous avons su aussi la sagesse de Dieu à partir de la création perfectionnée du cordon ombilical et du fait et du lait du nourrisson et de leur adaptation au développement de l'enfant et enfin sa sagesse apparaît dans chaque partie des plantes. Le cinquième point, de même on a su l'ingéniosité et l'expertise de Dieu à travers le transfert de la résistance de la mère à l'embryon, à travers la production du lait à partir de ce que mange la mère et enfin à travers la création de la variété des fruits et cela à partir d'un même sol, d'une même eau, d'un même air et d'un même soleil. Le deuxième point, nous avons su que Dieu est vraiment miséricordieux car nous savons que nous ne pouvons pas vivre sans nourriture. Il nous a gratifié par conséquent de travers de miséricorde en nous créant les subsistances, alhamdoulilah. Le septième point, nous savons que Dieu est vraiment généreux car nous voyons que sa nourriture est destinée à chaque être vivant. Le huitième point, nous avons su que c'est Dieu le guide en voyant comment il a orienté de façon miraculeuse le sein de la mère qui s'est alors remplie de lui après avoir été fait quelque temps auparavant. Et aussi, quand nous voyons l'inspiration qu'il a faite au nouveau-né pour chercher le sein de la mère et la laisser, alors que ce nouveau-né ne fait absolument rien. Tout comme l'orientation de l'extérieur et des fruits nous montre aussi que Dieu est le guide parfait. Le neuvième point, nous avons su que Dieu est celui qui donne la vie et qui fait vivre. Est-ce que nous avons vu comment il fait surgir la vie à partir de matière inerte? Le deuxième point, nous avons su que Dieu est le modélateur et le formateur, que nous avons vu comment il a créé de belles images de vie à partir de la terre, de l'eau et de l'air. Le onzième et dernier point de cette conclusion est que nous avons su que celui qui a créé notre nourriture est Dieu. Le pouvoir, le sage, le savant, le bien informé, le très miséricordieux, le généreux, le guide, celui qui donne la vie et qui fait vivre, le modulateur et le formateur. Car la nature et les idoles, sous tout leur sens, ne possèdent rien de ces attributs. Signalons enfin que nous nous sommes profondément, sinon totalement inspirés au cours de cette réflexion du livre du chef Abdul Majid Al-Zamdani, que là le protège et lui donne son savoir, car ce livre s'intitule Kitab al-Tawhid, première partie, c'est-à-dire le livre du ministère divin. Puis Allah nous assiste à le traduire intégralement pour rendre service à Dieu, à sa religion et à ses serviteurs. Amen. En effet, les ouvrages du chef Zamdani, il mérite qu'on leur accorde une attention particulière, car il traite le sujet religieux de façon tout à fait scientifique, étant lui-même du domaine de la santé. Il montre par ses écrits que la religion en général et en particulier l'islam n'a jamais été ennemi de la science et que la science n'est jamais opposée à la religion. L'une et l'autre se complète de la religion avant toute chose. Ce frère en Dieu, après avoir vu comment Dieu crée l'être humain et comment il lui prépare sa subsistance durant les différents stades de la vie, après avoir vu la miséricorde et la générosité de Dieu envers ce créateur en général et en particulier envers l'homme, va-t-il continuer à préférer la joie et le jugement des créatures à ceux de son Seigneur, ou plutôt va-t-il continuer à croire que ce Dieu miséricordieux et généreux légiférera pour toi une loi qui va contre ton bien et ton intérêt ici-bas et de l'au-delà? Va-t-il continuer à croire au prix des ennemis de Dieu et de sa religion, ceux qui se présentent dans la religion comme un mythe, une légende qui n'a aucune réalité palpante, de sorte qu'il faut la limiter seulement entre son Seigneur et toi, dans ta maison ou dans la mosquée, sans essayer de faire pénétrer sans essayer de la faire pénétrer dans les autres domaines de la vie? Va-t-il encore continuer à croire que ta vie et celle des autres dépendent des puissances développées? Ils doivent continuer à croire que ces puissances développées peuvent réaliser son bonheur sur cette terre, alors qu'ils viennent de voir qu'elles ne sont pas créées, ni s'entretiennent la vie, ni n'entretiennent sa vie, ni n'organisent sa nourriture. En effet, elles ne commandent ni à la vie, ni à la mort, ni à la vie, ni à la terre, ni aux arbres et plantes, ni aux semences. Nul d'entre eux ne sait même pas comment il est créé et comment il mourra. N'est-il pas temps de fortifier notre foi en Dieu, seul dans toutes les affaires? N'est-il pas temps de mettre notre confiance uniquement en Dieu? N'est-il pas temps de comprendre que les progrès et la civilisation ne peuvent être atteints dans la désobéissance aux ordres du Créateur? Jusqu'à quand comprendrons-nous que notre bonheur ou malheur ne dépend de personne, mais seulement de Dieu, puis de notre comportement envers lui et de notre effort à réaliser ce bonheur? Et toi, chercheur en Dieu, après avoir compris tout ce que nous venons de démontrer, concernant la création de l'homme, l'organisation de sa vie et de sa nourriture, indépendamment de la volonté de l'homme, vas-tu continuer à croire que Dieu t'ordonne quelque chose contraire à ta nature ou contraire à ton bien? N'est-ce pas Dieu qui t'a créé sans que tu saches comment? N'est-ce pas Dieu qui t'entretient la vie sans que tu saches comment? N'est-ce pas Dieu qui te fera mourir sans que tu saches comment? Et cela, que tu le veuilles ou non? Si ce jeune de porter le voile islamique, crois-tu qu'il ne t'aime pas? Ou qu'il est contre sa liberté et son pouvoir? Et seulement est vraiment l'être humain. Dieu l'a créé et il adore un autre que Dieu. Dieu le pouvoir de tout ce dont il a besoin et il remercie un autre que Dieu. Dieu lui légifère une loi de laquelle se trouve son bonheur ici-bas et dans l'au-delà, et lui, il préfère la loi de ses semblables. Dieu a vraiment raison lorsqu'il dit « Inna l'insan le rabbihi le connaît »« Inna l'insan le rabbihi le connaît »« Wa innahu ala zalik le shahid »« Wa innahu li hubbi le khayr le shahid » أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا وُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ. L'homme est certes ingrat envers son Seigneur, et pourtant il est certes témoin de cela. Et pour l'amour des richesses, il est certes ardent. N'était-il donc pas que lorsque ce qui est dans le sang sera bouleversé et que sera dévoilé ce qui est dans le poitrine, ce jour-là, certes, le Seigneur sera parfaitement connaisseur de chapitre 5, verset 6 à 11. Ceci dit, je prie Allah de nous montrer clairement la vérité et de nous permettre de la suivre, et de nous montrer clairement le faux et de nous permettre de l'éviter, et qu'il ne rende pas la vérité confuse pour nous, qu'il nous conforme à sa sainte volonté, et qu'il fasse que nos œuvres soient destinées uniquement à sa glorieuse et généreuse face, et qu'il les accepte par sa grâce et sa miséricorde, et qu'il nous pardonne nos fautes et erreurs et nos péchés, ainsi que le péché de tous les musulmans et musulmans, vivants ou morts. Amin. Sache bien entendre la paix de celui qui l'appelle, et exauce sur l'invocation de celui qui l'invoque, quand la prie de saluer notre Dieu et le prophète Mohammed, ainsi que sa famille et ses compagnons. Amin. Assalamu alaikum. Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et veuillez entendre, s'il y a contradiction, elle ne peut être que le résultat de l'inexactitude et non de l'exactitude. De l'inexactitude et la défectuosité des observations, des calculs et des déductions, bref, le résultat dû au refus des scientifiques à admettre qu'effectivement ces vérités ont été évoquées et exposées clairement dans le saint livre de Dieu. Et entendre encore, وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير